Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dès ses débuts, on le sait, la langue française a conservé des vestiges du roman, du gaulois, du germanique, du breton, du slave, du grec, bref, et sans doute de bien d'autres origines encore, mais comme elle est grande voyageuse, cette langue, en traversant les villes et les ports de la Méditerranée, elle aurait revêtu des habits orientaux, autrement dit des turqueries, des arabesques et autres chinoiseries. Telle est du moins la thèse de mon invité qui a rédigé un essai intitulé « Français, langue d'Orient ?» Point d'interrogation, car le point d'interrogation est important. Et c'est paru aux éditions Hermann Éditeur. Mon invité, c'est Giovanni Dottoli. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard, je suis toujours très content d'être là, parler aux très nombreux auditeurs
de Canal
Académie.
C'est vrai
qu'ils augmentent de plus en plus.
Vous êtes professeur de langue et de littérature française à l'Université de Paris. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, et le très n'est pas un excès, des ouvrages en français et sur le français, et évidemment
bien
des
sûr.
Ouvrages en italien. Vous dirigez plusieurs collections et des revues. Et j'ajouterai tout de même aussi que vous êtes officier de la Légion d'honneur et Grand Prix de l'Académie française en l'an 2000 pour la totalité de votre œuvre. Bonjour alors et bienvenue dans notre studio. Alors vous affirmez que le génie de la langue française, c'est d'être ouverte à l'autre. Toujours elle l'a été, tout au long de son histoire. Vous dites elle est le fruit de la transhumance des mots, ça n'est jamais la langue de l'autarcie.
Voilà, ce mot est fondamental que vous venez de prononcer, le mot transhumance, qui est un mot d'origine latine, qui débute par le préfixe « trans », qui signifie « passer d'un lieu à l'autre ». La transhumance, on la disait autrefois au temps des Latins pour les brebis qui descendaient des montagnes vers les plaines l'hiver et qui retournaient dans les montagnes l'été.
Ça a duré jusqu'à
50 ans, moins au sud de l'Italie. Alors, à partir de cette idée, j'ai pensé que cette langue merveilleuse, qui, je le dis toujours, est mon pain, parce que je l'enseigne, et donc j'ai un salaire grâce au français, et mon rêve, parce que je l'écris dans ma poésie, dans mes livres, et puis je l'invente moi aussi, je fais des néologismes aussi de poésie. J'ai pensé que cette langue, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé le long de la tradition, est une langue plurielle, une langue métisse, une langue de dialogue, et tout cela par nature, par essence, parce que comme ça,
c'est
dès le début. De fait, si on regarde les premiers textes qui sont à l'origine du français, les tout premiers, donc il y a 1000 ans, et la langue française a plus de 1000 ans, justement Alain Rey a écrit un livre magnifique intitulé « 1000 ans de langue française », eh bien pendant ces 10 siècles, cette langue qui est née dans le mariage, qui est né dans le dialogue, qui est né en correspondant et en dialoguant avec d'autres langues, non seulement des langues d'origine, donc le latin, le grec au début, mais aussi toutes les langues romanes qui, au fur et à mesure, étaient en train de se former, pour différentes raisons, bien sûr. Et donc, si ce génie est un génie, disons, de mobilité, de transhumance, de mouvement, je me suis demandé pourquoi et comment. Pourquoi cette langue est mobile? Quelle est sa véritable nature? Et quelles sont les caractéristiques essentielles de ce pluralisme dialoguant, on pourrait dire? Eh bien, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'idée était juste. C'est une idée, c'est pour ça que justement j'ai placé à côté du titre le point d'interrogation pour ne pas être, disons, critiqué, péremptoire et critiqué par des linguistes, disons, officiels. Alors, la première raison me paraît d'une grande évidence, et elle vaut aussi pour l'italien, pour l'espagnol, c'est-à-dire que presque toutes les langues européennes sont des langues indo-européenne.
Déjà, il y a une matrice commune.
Donc, il y a une matrice commune qui est une matrice d'ordre oriental. Et là, on est en train de faire des recherches. Il y a des philologues très doués qui font des recherches sur des mots typiques. Par exemple, je sais pas, le mot blé, le mot huile, le mot voyage, c'est-à-dire les mots qui sont dans toutes ces langues. Et on a vraiment retrouvé qu'il y a une racine forte commune. Dès le début, il y a un radical du mot qui vient de très loin, qui vient d'un espace très oriental, bien sûr, qui est tout ce monde qui est au sud de l'Asie. On ne peut pas dire exactement où, mais c'est vrai.
Ah oui, mais donc cet Orient, vous ne le définissez pas. Vous dites que c'est une langue d'Orient, mais
c'est un Orient,
Orient un peu imprécis, un peu flou.
Dans le sens que j'ai pensé
Moyen-Orient, plutôt.
Moyen-Orient et Extrême-Orient
aussi. Début d'Extrême-Orient.
Parce que l'origine vient de l'Extrême-Orient, ça c'est sûr. Et ce qui est étonnant, c'est que cette origine a subi un retour, dans le sens que, au fur et à mesure, le long des années, des siècles et des dizaines d'années, des langues comme l'arabe, comme le chinois, comme le japonais, comme l'hindou, comme le persan, le turc, ont beaucoup contribué à la formation de cette langue. Mais quelle est la force du français ? Voilà. La force du français, c'est le fait que le français sait accueillir. Il ne refuse jamais. Il accueille, il fait le mariage et, disons, il sait métamorphoser la matière linguistique d'origine en la faisant devenir sienne. C'est pour cela que je pense que, dans le passé, on n'a pas vraiment insisté sur cet aspect. J'en ai parlé à Henriette Walter, qui a beaucoup étudié ce sujet, mais d'après d'autres perspectives, elle était très contente de cette idée. Elle a dit, tu as raison, tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai, il y a une matrice d'ordre oriental, pluriel, qui va contre toute la tradition. Si on consulte n'importe quel manuel d'histoire de la langue française ou d'histoire de la culture française, la plupart des écrivains cités, c'est des écrivains ou des linguistes qui insistent sur la stabilité, sur le purisme, sur une sorte de refus du français d'accueillir les autres langues.
Or, c'est tout à fait le contraire. Les statistiques, rien qu'à étudier les mots d'origine étrangère, montrent
le
contraire.
Alors moi, j'ai voulu donner un échantillon. Mon livre se termine par un glossaire d'une quarantaine de pages, qui n'est pas, bien sûr, total, parce que je ne pouvais pas être total, mais qui donne une idée précise de l'index des paroles, expressions non propres, qui sont fondamentaux aussi, bien sûr, suffixes et préfixes qui viennent d'Orient. Et alors là, il y a de l'arabe, de l'australien même, du chinois, du grec, de l'hébreu, de l'hindi, du persan, du latin, bien sûr, du malais, du polynésien, du tamoul ou tamil, du tibétain et de l'italien.
Cela dit, j'ai regardé un petit peu ce que vous avez mis. En effet, bon, on compte à peu près 391 mots répertoriés issus de l'arabe. C'est déjà beaucoup.
C'est mais pas. Alors, là, bon, au début, on
c'est
parlait.
C'est pas énorme. Non, maintenant, ça augmente.
Maintenant, ça augmente. On est maintenant, j'ai calculé autour de 1000 mots qui mais viennent de l'arabe.
Bon.
Mais disons les mots officiels. Mais si
il y
on
y
fait.
Il y a des mots de la langue qui courent tout seul.
Voilà, à ce moment, à notre époque, une radiographie des banlieues, par exemple, et donc des immigrés qui sont français, bien sûr, qui sont là depuis deuxième et même de troisième génération, qui gardent quand même leur civilisation. Il y a un patrimoine d'oralité et de mots arabes qui n'est pas encore
pris
dans
en
les
compte.
Dictionnaires. Et donc, ce n'est pas 1000, ça devient 2000, ou je ne sais pas combien.
Alors, les persans seraient, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, hein, 98 mots, les mots turcs 58, le sanskrit 89, c'est pour donner que quelques-uns.
Oui, mais bien sûr.
En tout, tout ça, ça fait quoi ? 2-3 000 mots qui seraient d'origine étrangère ?
Le total, c'est autour de 4 000 mots.
4 000 mots d'origine un peu orientale.
Déclarés d'origine orientale, disons, des 5 derniers siècles. Voilà, à partir du moment où on reconnaît la naissance de la langue française, disons, à partir de Montaigne ou à partir de l'édit de Villers-Cotterêts, où François Ier a décidé que tous les actes de l'administration auraient dû être rédigés uniquement en français, les actes. Mais la chose est plus complexe que ça, parce que ça, c'est les mots de l'officialité. Mais si on fait une radiographie légère, même pas compliquée, de la totalité du lexique de la langue française, on se rend immédiatement compte que entre 80 et 90% ces mots sont d'origine grecque ou latine. C'est une langue néo-latine, bien sûr.
Ça, on le sait, oui, oui.
Et quand on dit grec, latin, souvent, le mot est à cheval entre les deux.
Oui.
Entre les deux, parce que, bien sûr, les latins avaient beaucoup pris aux grecs. Cicéron le dit tout le temps. Cicéron dit, nous, les latins, on est allés conquérir la Grèce et à la place de conquérir, on a été conquis. Alors, cela signifie que si 80 ou 90% de cette langue est d'ordre grec ou latin, et c'est déjà une base totale d'orientalité, parce que le grec et le latin sont des langues orientales.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pour vous, l'occidental, c'est vraiment très, très à l'ouest. Parce que tout le reste, même l'Italie, c'est déjà l'Orient
alors,
un
alors,
peu.
Alors, même
vous.
L'Italie, c'est déjà
vous dites
l'Orient.
Dans votre livre.
Parce que, je pense par exemple à Théophile Gautier, quand il allait à Venise, il dit « je vais en Orient ». Quand on parle de ma région, la région d'où je viens, on
Paris.
L'appelle… Oui, Paris,
sud,
les Pouilles, le
sud.
Sud, qui est à 100 kilomètres de l'Albanie. Donc, on est vraiment en face. Quand il fait beau et on monte sur les collines, on voit les nuages et les montagnes des Balkans et d'Albanie et du Monténégro.
Alors, votre thèse, vous l'exprimez très clairement. Je voudrais prouver une thèse qui me paraît quelque peu évidente. La langue française est une langue même et surtout d'origine orientale. Et après, vous insistez d'ailleurs. J'insiste sur la connotation orientale de la langue française que je voudrais nommer par le néologisme orientalité. Vous allez vous faire quelques ennemis, là, j'ai l'impression, Giovanni d'Ottoli. C'est pas facile d'admettre que notre langue est en partie orientale.
Non, c'est de reconnaître l'évidence.
Il faut reconnaître l'évidence.
De le lire, l'évidence, c'est là, tout est grec. Non seulement tout était grec, mais maintenant, ce qui est merveilleux et étonnant, c'est que tous les néologismes d'ordre scientifique, de la médecine, du nucléaire, de l'électricité, de l'informatique, à part l'influence de l'anglais, bien sûr, mais là, il faudrait dire que même l'anglais
a les racines aussi,
est à 80% d'origine latine. Parce que dans l'histoire, les Français avaient conquis l'Angleterre.
Ça nous rassure.
Donc, quand on dit anglais, français, ils sont en lutte, c'est une lutte entre des sœurs cousines. Donc, c'est pas vraiment une lutte. Et des ennemis, non. Moi, j'aime pénétrer les raisons réelles d'une langue, la mienne aussi, l'italien, parce que l'italien subit le même problème. Donc, même l'italien est une langue orientale. Et l'évidence est là. Si on part de cet aspect, on confirme le caractère de cette langue ouverte, on confirme le fait que le purisme n'a jamais existé. Même François de Malherbe, qui, tous les manuels, est considéré comme
le puriste
par excellence, eh bien, il disait, c'est l'usage qui fait la langue. Et en parlant de l'usage, il ne parlait pas des écrivains, il parlait des ouvriers d'un port. Les ports de la Seine ou de n'importe quelle ville du sud et du nord de l'Atlantique, là, de la mer qui est face à l'Angleterre. Et donc, François de Malherbe, même Vaugelas, qui insiste sur cet aspect, il dit, non, une langue n'est pas morte. Une langue, c'est le résultat du dialogue. Autrement, la langue finit.
Donc, elle se ferme et elle meurt, en effet. Donc, la langue française, c'est une langue terre d'accueil. Finalement,
voilà.
Vous utilisez cette expression. Vous la reprenez à Henriette Walter, d'ailleurs. Et alors, dans votre dernier chapitre, vous énumérez un certain nombre de caractéristiques évidentes, entre guillemets, de la langue française. Alors, je vais les citer.
Bien sûr.
Vous allez les
Merci.
Commenter. Elle est l'accomplissement provisoire d'un vaste métissage. Provisoire, c'est-à-dire toujours en mouvement.
Ça continue.
Elle est polyglotte. Ce n'est pas une langue qui se ferme, mais c'est une langue qui n'hésite pas à emprunter. Elle est mobile. Elle n'est jamais fermée sur elle-même. Voilà les caractéristiques
Alors,
de la langue française pour vous.
Cela élimine tout pessimisme sur l'avenir.
Ah, très bien.
J'entends souvent, même de Le Figaro, souvent du pessimisme. Le français est en danger, on va voir, c'est pas. Non.
Le partage, c'est l'avenir.
Le français n'est pas en danger, le partage, c'est l'avenir. Et c'est là qu'il faut que les hommes politiques et les hommes qui s'occupent de culture et de langue, de dialogue entre les peuples, de la francophonie. Il faut absolument que la francophonie, à toute essence, se rende compte que c'est là l'avenir. Il faut savoir accueillir toute cette productivité, cette créativité des peuples francophones qui sont en train de donner des trésors aux Français. Et souvent, c'est des mots qui sont déjà dans le français, qui ont été utilisés autrefois, retrouvés. C'est comme des fleuves qui pénètrent les rochers au-dessous d'une montagne
et qui
sortent, voilà, purifiés de l'autre côté vers la mer bleue de l'Adriatique ou la mer tyrrhénienne.
Alors, Giovanni Dottoli, votre livre, Le français, langue d'Orient, Alain Rey, dit une très jolie phrase à la fin. Le français, sa force, c'est de continuer le partage et le dialogue avec d'autres langues, garder sa capacité d'accueil, car, dit Alain Rey, il n'y a pas d'amour sans rencontre.
Ah, moi,
si on aime la langue française, il faut oser la rencontre.
Et
c'est votre
la
théorie.
De cette langue, d'ailleurs, toute la littérature française, d'autrefois, de nos jours, même des jeunes. Je fréquente un poète de langue italienne et française, surtout française en ce cas, beaucoup de poètes français, jeunes ou moins jeunes, et je repère partout une créativité étonnante, une grande capacité d'accueillir. Par exemple, il y a des poètes roumains qui écrivent en français. On n'en parle presque jamais. Des poètes israéliens, des poètes égyptiens. Donc même dans des endroits où apparemment le français serait mort, il n'est pas mort. Il n'est tellement pas mort qu'il y a des écrivains qui l'utilisent dans leur pays. Et donc, il faut espérer et sourire à l'avenir.
Merci pour ce message d'espoir, Giovanni Dottoli. Ce nous est réconfortant, en tout cas, de savoir que la langue française n'est pas encore là de mourir si on la laisse ouverte, comme vous le dites. Giovanni Dottoli, Le français, langue d'Orient, c'est paru chez Hermann Lettres. Merci et à bientôt pour une autre émission.
Merci Madame Renard et merci à Canal Académie.